Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie et cette émission Point de mire. C'est un pays mystérieux et fascinant que nous vous proposons de découvrir dans cette émission, la Libye. Si elle ne compte pas encore parmi les destinations préférées des touristes, si elle est aujourd'hui plus connue par ses richesses pétrolifères et par son chef d'État, le colonel Kadhafi, la Libye est un pays ancré et auréolé d'une longue histoire. Et c'est en compagnie d'un éminent archéologue que nous vous proposons de partir à la découverte des cités grecques et romaines de Libye, M. André Laronde. Monsieur Laronde, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie et merci surtout de bien vouloir nous guider à travers ce pays pour un voyage de presque 13 siècles en Libye. Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 2002 et vous êtes, entre autres, professeur d'histoire grecque et directeur de l'Institut d'épigraphie grecque de la Sorbonne et vous conduisez les fouilles archéologiques en Tripolitaine et en Cyrénaïque, c'est-à-dire en Libye, on va en reparler. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles, plus d'une centaine d'articles sur Cyrène et la Libye hellénistique. Et en 1985, vous avez publié un ouvrage sur l'empereur romain né en Libye, Septime Sévère. Et vous avez présenté devant l'Académie des Beaux-Arts, le 3 octobre 2007, une communication intitulée « Les ruines grecques, romaines et byzantines de Libye ». Et Monsieur Laronde, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. La Libye, ce n'est pas seulement un désert, n'est-ce pas? Il y a aussi une côte avec des ports.
Eh bien d'abord, madame, merci de m'accueillir et merci à Canal Académie de me recevoir aujourd'hui et de me donner l'occasion de parler d'un pays qui en effet est plus célèbre que connu, et un pays qui mérite d'être visité. Il y a bien sûr le désert qui occupe 90% de la surface du pays. Ce désert est d'ailleurs magnifique en beaucoup d'endroits, c'est certainement un des plus beaux déserts du monde, mais il ne doit pas faire oublier la côte, cette côte qui est une côte méditerranéenne, notamment en Cyrénaïque, une côte qui est bien arrosée. Il faut savoir qu'il pleut autant à Cyrène qu'à Marseille, et donc une région qui a toujours eu une agriculture importante, et donc qui offrait, dans les conditions de vie traditionnelles de la population, des ressources à une population assez nombreuse. Et c'est pourquoi la Libye n'a pas du tout été étrangère au grand développement de la Méditerranée antique, grecque et romaine.
Monsieur Laronde, je l'ai dit, vous conduisez les fouilles archéologiques en Tripolitaine et en Cyrénaïque. Vous les conduisez aujourd'hui, mais je crois que vous auriez plaisir à faire l'éloge de votre prédécesseur, Monsieur François Chamoux.
Eh bien oui, et c'est à la fois pour moi un plaisir et un moment douloureux, je le dis, car nous venons de perdre Monsieur Chamoux qui nous a quittés le 20 octobre exactement. Monsieur Chamoux a été le fondateur de cette mission archéologique et c'est lui qui a entrepris de placer la Libye dans le panorama des recherches archéologiques que la France poursuit un peu partout dans le monde et notamment dans le bassin méditerranéen. Je voudrais rappeler que François Chamoux était ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé des lettres, ancien membre de l'École française d'archéologie d'Athènes. Il a été successivement professeur aux universités de Nancy et à la Sorbonne, et c'est là que je l'ai connu quand il a bien voulu diriger ma propre thèse d'État, thèse qui a été soutenue sous sa direction en 1977. François Chamoux, non seulement était un helléniste au sens plein du terme, aussi connaisseur de la littérature, notamment de la poésie grecque, mais également un spécialiste de sculpture grecque. N'oublions pas qu'il a fait une très belle étude il y a maintenant plus de 50 ans sur l'Aurige de Delphes. Il a été le spécialiste incontesté de la sculpture grecque classique pendant des décennies. Et à ses talents multiples, il ajoutait une facilité d'expression et une richesse d'expression écrite qui a fait que ses livres sont des classiques. Je pense notamment à son très beau livre sur la civilisation grecque archaïque et classique, paru en 1964, à son livre sur la civilisation hellénistique, à un livre auquel il tenait beaucoup sur Marc-Antoine, dernier prince de l'Orient hellénistique, et À côté de cela, François Chamoux a donné plusieurs travaux de sculpture grecque, un livre sur l'art grec en général, qui est un livre splendide, et il a été parmi les premiers à souligner la place de la couleur dans l'art grec. En plus, François Chamoux avait fait sa thèse sur Cyrène, archaïque et classique, et c'est à ce titre qu'à partir de 1976, il a entrepris des fouilles en Libye et qu'il a bien voulu m'en confier la direction à partir de 1981.
Alors, André Laronde, vous évoquez la Cyrénaïque, et Cyrène, c'est la partie la plus à l'est, je crois, de la Libye.
Exactement. La Cyrénaïque est une grosse protubérance qui s'avance dans la Méditerranée, au sud-est de la Crète, pas tellement loin de l'Europe, puisqu'entre la Crète et la Cyrénaïque, il y a 280 km. Et c'est une région montagneuse qui atteint presque 900 mètres d'altitude, une région qui est constituée par deux grands plateaux fertiles qui reçoivent beaucoup d'eau pendant l'hiver et où on a une végétation de type méditerranéen. On pourrait se croire dans une île méditerranéenne, n'était-ce que du côté du sud, cette île méditerranéenne est collée au Sahara.
Et du temps des Grecs, les Grecs disaient « la Libye aux larges espaces ».
C'est une très belle expression que nous trouvons chez le poète grec Pindare, qui est venu en Libye vers 450 avant Jésus-Christ. Et Pindare a été sensible aux immenses horizons de la Libye, car il s'agit d'un ensemble de trois plateaux, un petit plateau en bordure de mer relativement étroit, deux grands plateaux qui s'élèvent, l'un à 300, l'autre à 600 mètres d'altitude, et ces plateaux offrent d'immenses espaces, espaces qui sont tout de même coupés par des vallées très profondes, de véritables canyons, ce qui fait que le paysage de la Cyrénaïque est un paysage boisé, ombragé, entrecoupé de vallées très profondes, aux parois vertigineuses qui nous font penser à la région des gorges du Verdon chez nous.
André Laronde, vous évoquez Pindare. Alors, ce poète Pindare a été reçu, je crois, pendant la dernière période, le dernier roi de Libye, puisque la Libye était dirigée par des rois, le roi Arkésilas IV.
Est-ce que je Effectivement. Il y avait à Cyrène une dynastie qui a régné des origines de Cyrène, fondée en 631 par Batos. Et ses descendants de Batos, la dynastie des Batiades, ont régné pratiquement deux siècles sur la Cyrénaïque. Et la présence d'une monarchie chez les Grecs n'est pas exceptionnelle. Pensons que Sparte avait également des rois. Et donc, le dernier roi de Cyrène, Arkésilas IV, qui a été renversé par une révolution et qui a abouti à la création d'une république, ce dernier roi, Arkésilas IV, avait reçu le poète Pindare. Et Pindare a consacré deux odes à des victoires du roi Arkésilas IV et à des victoires d'un Cyrénéen au cours de compétitions, ces fameux concours que l'on appelle quelquefois de manière un peu erronée des Jeux et qui se déroulaient à Olympie, mais aussi à Delphes, mais encore à l'isthme de Corinthe ou encore à Némée.
André Laronde, le cœur de Cyrène, c'est le sanctuaire d'Apollon. Est-ce que c'est là que vous avez effectué la majorité de vos fouilles ?
Eh bien, non. À vrai dire, les fouilles de Cyrène ont été très développées entre les deux guerres mondiales par les Italiens lorsque la Libye était une colonie italienne. Et le sanctuaire d'Apollon est en réalité le résultat tout à fait réussi du travail des archéologues italiens des années 20-40. Mais, aux côtés de François Chamoux, j'ai engagé des fouilles à Apollonia, le port de Cyrène. En effet, Cyrène est une colonie grecque qui offre la particularité d'être au milieu des terres, à 20 km de la mer, pour profiter des bonnes terres. Et Cyrène avait besoin d'un débouché pour commercer et entrer en contact avec le monde extérieur. Et ce débouché, c'est le port de Cyrène, qui se trouve sur la côte, en contrebas de Cyrène. Cyrène est à 600 mètres d'altitude. Son port au bord de la mer est à 20 km de distance, et ce port est devenu par la suite une cité indépendante sous le nom d'Apollonia, et c'est sous le nom d'Apollonia que ce port est entré dans l'histoire.
Cyrène, André Laronde, c'est aussi une vaste nécropole. Je crois que les voyageurs du 19e siècle avaient été frappés par cette nécropole, cette ville des morts. Pourquoi est-elle si originale ?
Eh bien, elle n'est pas si originale. La séparation entre la ville des vivants et la ville des morts est commune à toutes les civilisations de l'Antiquité classique. Mais il se trouve que quand Cyrène était ensevelie avant le début des fouilles, les voyageurs qui passaient à Cyrène au XVIIIe et surtout au XIXe siècle étaient frappés par ces tombeaux qui sont taillés dans la roche, des hypogées, comme nous disons, et ces tombeaux ont toujours été visibles, ce qui fait que Cyrène a longtemps été qualifiée par les voyageurs de ville des morts. Et c'est vrai que Cyrène est entourée d'un anneau de nécropole qui représente près de 20 km de circonférence, et notamment les tombes qui se trouvent au nord de la ville, en bordure de la route qui mène de Cyrène à Apollonia, constituent un ensemble spectaculaire et certainement le plus bel ensemble de tombeaux qui ait été conservé dans le monde méditerranéen.
Et lors de votre communication devant l'Académie des Beaux-Arts, vous avez précisé que ces tombes ont une particularité, c'est que les statues féminines n'ont pas de visage. Expliquez-nous pourquoi.
Effectivement, c'est un des traits très originaux de l'art cyrénéen. L'art cyrénéen, c'est l'art grec. Et Cyrène n'accuse aucun retard par rapport au grand centre artistique de la Grèce proprement dite. Mais à Cyrène, on travaillait le marbre importé de Grèce, car il n'y a pas de marbre en Libye, et on faisait des statues qui représentent une femme jaillissant du sol, prise à mi-corps, et qui fait le geste de se dévoiler. Et on a là deux séries de sculptures très curieuses, l'une avec un visage représenté empreint de compassion dans le style que Praxitèle avait mis, je dirais, à l'honneur à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, et une série au contraire où le visage n'apparaît pas. À la place du visage, nous avons un morceau de cylindre non travaillé. On ne peut pas penser qu'il s'agit d'œuvres inachevées, car ces statues sont absolument complètes par ailleurs. On ne peut pas penser que le visage était peint, rien n'indique qu'il y ait eu une peinture. Et donc, il faut bien considérer qu'il y avait chez les Libyens un tabou contre la représentation de la divinité de la mort, car il s'agit évidemment de la divinité de la mort, qui en plus porte souvent sur la tête un polos, c'est-à-dire une petite tiare de feutre, qui est le symbole des divinités dans le monde grec. Autrement dit, une divinité libyenne représentée à la grecque est une preuve du contact qu'il y avait entre population grecque et population locale libyenne. Et ce trait ne doit pas nous étonner. Si ces œuvres constituent une originalité de la sculpture cyrénéenne, il faut bien voir que la civilisation grecque est toujours entrée en contact avec les civilisations que l'on appelle périphériques. Et la civilisation grecque y a trouvé un enrichissement, elle a apporté à ces civilisations périphériques, mais elle en a reçu aussi, et il est indubitable que dans le domaine religieux, eh bien, les Grecs installés à Cyrène ont entretenu des contacts constants et nombreux avec la population libyque et que cela s'est traduit aussi dans le domaine de leurs croyances.
Pour évoquer la deuxième grande région de la Libye, la Tripolitaine. Alors si la Cyrénaïque était à l'est, je suppose que la Tripolitaine est à l'ouest, mais peut-être pas.
Tout à fait. La Tripolitaine est bien à l'ouest. Elle se trouve en bordure de la Petite Syrte. Le rivage nord-ouest de la Petite Syrte est aujourd'hui en Tunisie. Et la Tripolitaine est en Libye. Dans l'Antiquité, ces deux régions, Tunisie et Tripolitaine, ne faisaient qu'une et constituaient à l'époque de l'Empire romain ce qu'on appelait la province d'Afrique proconsulaire, puisqu'elle était gouvernée par un proconsul envoyé par le Sénat, une des provinces les plus importantes du bassin méditerranéen avec la province d'Asie, c'est-à-dire l'ouest de l'Asie mineure et les îles de la mer Égée. Cette province de Tripolitaine, ou la partie tripolitaine de la grande province d'Afrique, eh bien, cette région est également de climat méditerranéen, plus africaine d'aspect car elle est basse et les palmiers y poussent en grand nombre. Elle présente donc un aspect plus classique selon l'idée qu'on se fait généralement du nord de l'Afrique. Et cette région a reçu trois grandes villes dans l'Antiquité, les villes de Sabrata, d'Oea, l'actuelle Tripoli, et de Leptis Magna, d'où le nom de Tripolitaine, le pays des trois villes.
Et c'est Leptis Magna qui a vu naître justement l'empereur Septime Sévère ?
Effectivement. Leptis Magna, qui était la plus importante des trois villes, la plus orientale aussi, aujourd'hui située à 120 km à l'est de Tripoli, eh bien Leptis Magna, en 146, a vu naître Septime Sévère, qui en 193 est devenu empereur à la suite d'une guerre civile, et qui a régné jusqu'en 211, mais qui a été aussi le fondateur d'une dynastie qui a duré jusqu'en 235. Et les Libyens encore aujourd'hui disent volontiers que Septime Sévère a été le premier empereur africain.
André Laronde, quels sont donc les vestiges les plus intéressants de Leptis Magna ?
Leptis Magna était déjà une grande ville avant même la naissance de Septime Sévère, avant 146, dès l'époque carthaginoise, car à l'origine ce sont des colons venus de Phénicie à Carthage, puis de Carthage à Leptis Magna qui ont occupé les lieux. Dès l'époque phénicienne, donc, c'est-à-dire entre le 5e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, Leptis Magna était déjà une ville importante qui exploitait les ressources agricoles de la région et qui faisait également le commerce transsaharien pour faire venir du sud du Sahara de la poudre d'or, de l'ivoire, des plumes d'autruche, des esclaves aussi, il faut bien le dire, mais aussi des bêtes sauvages. Et Leptis Magna s'est développé dans l'Empire romain, à preuve l'importance des monuments qui datent de l'époque de l'empereur Auguste, c'est-à-dire des débuts de l'ère chrétienne. Et naturellement, quand Septime Sévère est monté sur le trône en 193, il a eu à cœur d'embellir sa ville natale et il a développé cette ville en provoquant un grand programme de construction qui a remodelé, on peut dire, tout le centre urbain.
Et dont il reste alors aujourd'hui un arc qu'on ne dit pas de triomphe, avez-vous précisé d'ailleurs ?
Et non, car les triomphes ne se célébraient qu'à Rome. Et tous les arcs que l'on voit un peu partout dans le monde romain, comme l'arc d'Orange chez nous, eh bien, ce sont des arcs municipaux, devrait-on dire, et des arcs qui surtout marquent l'extension de la ville, comme une entrée monumentale d'un nouveau quartier. Et à Leptis Magna, il y a plusieurs arcs, un arc dû à l'empereur Tibère, un arc dû à l'empereur Trajan, un arc probablement en l'honneur de Marc Aurèle mais resté inachevé, et surtout l'arc de Septime Sévère, dont tous les éléments ont été retrouvés et qui a donné lieu aux archéologues italiens de procéder à une belle restauration. Cet arc gigantesque fait 20 mètres de haut et a retrouvé toute sa parure de marbre. 2000 tonnes de marbre ont été utilisées pour la décoration de cet arc, bâti en calcaire local, mais plaqué de marbre importé, et ce seul fait permet de souligner la richesse de la ville.
Alors, dans cette ville, Leptis Magna, vous avez, je crois, vous-même fait une très grande trouvaille, c'était sous l'eau, c'est un port avec un T, un
exactement.
Môle. Voilà.
Il se trouve que le port de Leptis Magna avait été remodelé par Septime Sévère sous la forme d'un grand bassin fermé de 10 hectares, mais on n'avait pas fait d'investigation sous-marine à l'entrée du port et notre mission depuis une vingtaine d'années a fait des recherches sous-marines et a retrouvé un môle aujourd'hui abîmé dans la mer, effondré sous 15 à 20 mètres d'eau, mais dont des vestiges très considérables restent sous les eaux. Et cela m'a permis de restituer l'entrée du port de Leptis Magna, chose qui n'avait été vue par aucun archéologue avant nous. Mm-hmm. Et il y avait donc à l'entrée de ce bassin ce qu'on appellerait en Italie un port canal, qui permettait de briser la force des courants, de permettre aux bateaux d'entrer en toute sécurité dans ce port et d'éviter surtout l'ensablement de l'entrée du port qui aurait été inévitable autrement.
Alors, vous avez fait aussi une autre découverte, si j'ai bien noté ce que vous avez dit, dans votre communication devant l'Académie des Beaux-Arts, des thermes qui étaient enterrés sous 20 mètres de sable.
Les thermes étaient enterrés, à vrai dire, sous un peu moins, c'est-à-dire 6 mètres de sable.
6 mètres, alors je corrige.
Mais c'est tout de même une épaisseur considérable de sable stérile, car c'est en effet une des difficultés de la recherche archéologique à Leptis Magna. À la fin de l'Antiquité, probablement au cours du 5e siècle après Jésus-Christ, le site a été envahi par d'énormes masses de sable qui ont constitué de véritables dunes sur les ruines. Et c'est une archéologie, je dirais, comme les enfants peuvent la rêver. On voyait au début du 20e siècle des bouts de colonnes sortir de dunes de sable et en creusant, on retrouvait des monuments entiers. Ce sable, qui constitue une gêne considérable pour notre travail, a en même temps eu un rôle protecteur, il a protégé les vestiges. Et il se trouve qu'à côté du port, dans un coin de la ville qui n'avait jamais été exploré, j'ai réussi à retrouver les vestiges très imposants de thermes urbains, non pas de petits thermes privés, mais de grands thermes publics de la ville, dont la salle centrale fait plus de 23 mètres de long, 9 mètres de large, 9 mètres de haut. Et ces thermes datent eux aussi de l'époque de Septime Sévère. Nous sommes attachés à ce travail depuis maintenant une bonne dizaine d'années, mais évidemment, comme il faut dégager à la main d'énormes quantités de sable, le travail avance lentement.
Mais ça fait aussi du travail pour les ouvriers nombreux, je suppose,
bien
qui
sûr,
sont sur vos chantiers.
Bien sûr, nous engageons de jeunes Libyens qui viennent nous aider. Mon équipe, naturellement, comporte à côté de cela des architectes, des archéologues de métier. C'est un travail collectif. Aucun travail de ce genre ne peut être un travail individuel. Et si je coordonne ces travaux, je suis heureusement aidé par une équipe compétente et dévouée qui m'entoure à la fois de Français et de Libyens. Et nous avons pu non seulement dégager les structures de cet édifice, mais retrouver des statues de marbre, retrouver également des fragments de stuc qui décoraient les voutes. Et nous avons donc un matériel décoratif très riche, extrêmement intéressant.
Des mosaïques aussi.
Il y a eu des mosaïques, mais il y a une énigme dans cet édifice. Cet édifice qui date probablement de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, a été entièrement ravagé de la main de l'homme dans les années 270 après Jésus-Christ, sans que nous en voyions clairement la raison, à une époque où la ville était encore prospère et florissante. Et il y a donc un motif certainement d'ordre politique qui a amené les habitants ou des envahisseurs à ravager systématiquement cet édifice, et nous avons retrouvé des fragments d'enduit peint ou des fragments de mosaïques extrêmement beaux, qui nous donnent une idée de la somptuosité et de la variété du décor de cet édifice. Quelques éléments sont même montrables et j'espère que j'aurai l'occasion de les présenter au public.
André Laronde, tous ces sites dont vous nous parlez, qui sont donc d'une très grande richesse, sont-ils protégés? Sont-ils inscrits au patrimoine mondial? Sont-ils véritablement mis en valeur comme il le faudrait?
Eh bien, merci, madame, de me poser cette question. En effet, il existe un département d'archéologie de Libye qui veille à la protection de ces sites, appuyé sur une législation tout à fait rigoureuse et au courant de l'état actuel des exigences de la communauté internationale. Et justement, cette communauté internationale a accordé le label de patrimoine mondial à plusieurs sites libyens par le canal de l'UNESCO. Dans le désert, le site de la Kakous, mais sur la côte, les sites de Sabrata, de Leptis Magna, et en Cyrénaïque, le site d'Apollonia, sont inscrits au patrimoine mondial. Et des missions provoquées par l'UNESCO à la demande des autorités libyennes rendent régulièrement compte des mesures de protection qui sont prises pour ces sites. À l'heure actuelle, de plus, les autorités libyennes viennent de constituer un comité international de protection de la Cyrénaïque. Ce comité a été mis en place le 10 septembre sous la présidence conjointe de l'ingénieur Seif al-Islam, fils du guide de la révolution libyenne, le colonel Kadhafi, et d'autre part du prince Charles d'Angleterre. Et les autorités libyennes m'ont demandé de siéger dans ce comité.
André Laronde, nous avons évoqué grâce à vous la période hellénistique, nous avons aussi évoqué la période romaine. Je crois qu'il y a une troisième période où vous avez mené des fouilles, c'est la période byzantine. Peut-être un petit mot sur ces fouilles à Érythron, Érythron-la-Rouge.
Érythron-la-Rouge est une localité de la côte cyrénéenne à 35 km à l'est d'Apollonia. Un site un peu isolé mais que les touristes français commencent à venir visiter. Car ce site, qui est placé dans un cadre naturel merveilleux, absolument préservé de toute construction, disons de mauvais goût, eh bien ce site conserve deux belles basiliques byzantines qui avaient été à peine dégagées par un archéologue américain au tout début des années 60 et laissées ensuite à l'abandon. Et avec l'aide du Sénat français, notamment du sénateur Marigny, nous avons pu obtenir les moyens nécessaires à l'étude systématique de ce village cyrénéen qui s'est développé au cours de l'Antiquité, puisqu'il a reçu un évêché à l'époque byzantine. Une des basiliques était certainement la cathédrale de l'évêque, et d'autre part, une deuxième basilique en très bel état de conservation est une basilique de cimetière que nous avons pu restaurer avec ses colonnes de marbre et surtout ces plaques de marbre qui séparaient la nef centrale des nefs latérales, les plaques de marbre qui aussi clôturaient le chœur autour de l'autel et qui nous donnent une idée de ce qu'était la richesse du décor des églises du premier âge byzantin. C'est certainement un des monuments les mieux conservés de tout l'Orient que nous avons pu restaurer, mettre en valeur. Ces travaux ont été achevés en 2004 et nous continuons à Érythrone des fouilles. Nous allons restaurer la deuxième basilique qui est encore en assez bon état de conservation et nous avons découvert à côté les restes d'un village et notamment avec des thermes byzantins extrêmement intéressants.
André Laronde, vous nous faites rêver. Nous avons envie d'aller là-bas et de visiter toutes ces merveilles. Un dernier mot pour clore cette émission, si vous le voulez bien. Quels sont les projets pour les mois à venir? Quelles sont vos fouilles archéologiques que vous allez entreprendre?
Eh bien, ces fouilles sont faites avec l'appui du ministère français des Affaires étrangères, qui nous apporte un appui constant, avec l'appui de l'ambassade de France à Tripoli, et également avec l'aide cordiale et très efficace des autorités archéologiques libyennes que je tiens à remercier. Et même lorsque les relations entre la France et la Libye ont connu quelques difficultés, nous n'avons jamais été empêchés de travailler, que ce soit du côté français ou du côté libyen, nous avons toujours reçu l'appui le plus cordial et le plus efficace. Je souhaite donc continuer des travaux qui sont des travaux de longue haleine. Ces travaux sont des travaux délicats, qu'il faut faire avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de délicatesse. Et puis, j'espère avoir l'occasion de faire connaître ces travaux de deux façons différentes. Le tourisme se développe en Libye et j'espère que les touristes français, déjà très nombreux, viendront visiter ces sites exceptionnels qui méritent d'être connus à l'instar des sites de Syrie, de Turquie, de Grèce ou d'Italie. Et puis, enfin, j'espère que peut-être nous arriverons un jour à organiser à Paris une belle exposition autour du patrimoine libyen.
Formons ce rêve. Un dernier mot cependant, la Libye est un pays islamique. Y a-t-il des fouilles dans ce passé, j'allais dire, islamique? Parce que là, on n'en est pas dans leur religion.
C'est vrai. À partir du 7e siècle après Jésus-Christ, la conquête arabe a fait de la Libye un pays purement islamique. Et la Libye a notamment conservé des vestiges importants en quelques lieux à l'intérieur du désert du Sahara, mais aussi dans la zone côtière, et notamment le site de Soltane, un site qui se trouve au cœur de la Grande Sirte, à environ 60 km au-delà de la ville de Sirte, qui est le grand centre de la partie centrale méditerranéenne du pays. À ce site de Soltane sont associés des vestiges de l'époque des Fatimides, c'est-à-dire d'une grande dynastie qui a régné sur une partie du Maghreb, sur la Libye et sur l'Égypte au Xe siècle de notre ère. Cette dynastie des Fatimides a d'ailleurs fait l'objet à Paris il y a quelques années d'une très belle exposition à l'Institut du monde arabe. Et pour ce site Fatimide, nous avons entrepris dans le cadre de la mission française des recherches qui ont débuté en 2007 et qui, je l'espère, connaîtront un développement prometteur au cours des années à venir.
Merci André Laronde. Nous trouverons sur le site de Canal Académie toutes les publications que vous avez éditées et nous vous remercions infiniment de nous avoir emmenés en Libye aujourd'hui et de nous avoir fait rêver de ce beau pays.
Merci madame, c'est moi qui remercie Canal Académie et ses collaborateurs. Thank you.